10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline en ce vendredi 21 décembre, c'est-à-dire J-3 avant réveillon, ma chère Ombline.
C'est bien compté, Olivier. Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car comme vous le savez, Europe 1 s'intéresse à votre vécu. En octobre dernier, ils étaient des milliers à marcher pour le climat partout en France.
Ça fait 30 ans que personne ne fait rien. Ça fait 30 ans que les scientifiques nous alertent. Là encore, il y a une semaine, il y a eu le rapport du GIEC. Et ça change rien. Il y en a qui disent qu'il est encore temps, il y en a qui disent qu'il est trop tard. Je ne sais pas s'il est encore temps.
Vous étiez là à la précédente marche le 8 septembre ?
Oui, bien sûr. Mais bon, je pense qu'à un moment, ça ne suffira plus les marches.
C'est pourtant la solution retenue pour l'instant pour alerter les pouvoirs publics, interpeller les gouvernements. Après la marche du 8 septembre, celle d'aujourd'hui, le 13 octobre, les organisateurs promettent une manifestation tous les mois.
Extrait tiré d'un reportage de Marguerite Lefebvre pour Europe 1, réalisé le 13 octobre dernier. Ce lundi, 4 ONG ont déposé un recours contre le gouvernement qu'ils accusent de ne pas suffisamment agir pour respecter ses engagements pour le climat. La pétition de soutien a dépassé le million de signatures. Y aurait-il une prise de conscience générale des enjeux climatiques, sans être forcément militant ? Quels sont les gestes, les actes que l'on peut faire au quotidien pour préserver notre planète ? Peut-on éviter de prendre sa voiture ? Est-ce facile aujourd'hui de trier ses déchets ou de les réduire ? Environnement, que faites-vous pour le préserver au quotidien ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et on vous écoute au 3921. Comme chaque jour, vous composez ce numéro. C'est le standard d'Europe 1, 3921, 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui en vidéo, nous sommes entourés de jeunes stagiaires justement, et l'environnement, c'est le monde, votre monde de demain. Et j'espère que vous allez être très attentifs et écouter comme tous nos auditeurs ce qu'on peut faire pour préserver cet environnement. Nous avons Bénédicte, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Bénédicte.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, je vous appelle de Lyon et moi, j'ai 35 ans.
35 ans. Alors, Bénédicte, il y a 4 ans, vous avez opéré un changement radical dans votre vie, adopté un quotidien sans déchets. D'où ça vous est venu, cette idée ?
Voilà, c'est ça. Il y a 4 ans, avec notre famille, on a décidé qu'on allait essayer de réduire à néant tous les déchets de la famille.
Oui.
Parce qu'on s'est dit que finalement, il fallait arrêter d'attendre que le changement vienne d'en haut. Il fallait qu'on soit nous-mêmes acteurs.
Et donc, comment ça s'est opéré tout ça ?
Alors, concrètement, on a vidé notre poubelle dans le jardin, sur une bâche, et on a regardé déchet par déchet qu'est-ce qu'il y avait dans notre poubelle, et on a pris élément par élément, et on a essayé de trouver une solution pour chaque déchet qu'on produisait.
D'accord.
Voilà. Donc, à la fin de la première année, on a quand même réduit nos déchets de 90%, ce qui est absolument énorme. Et là, au bout de 4 ans, on est arrivé à produire un bocal de déchets par an pour une famille de 4.
Ce qui est incroyable comme performance. Vous étiez déjà sensibilisé à l'écologie avant, à la préservation de l'environnement ?
Alors oui, bien sûr, on était déjà là-dedans. D'ailleurs, on pensait qu'on était nickel, mais on continuait à avoir cette poubelle toutes les semaines. Et c'est, à un moment donné, on s'est dit, mais c'est pas possible. On fait du compost, on fait de la sensibilisation. Mon mari travaille dans des ONG depuis des années. Mmh. Et on continue d'avoir des déchets. Donc on s'est dit, il faut arrêter de dire aux autres ce qu'il faut faire, mais il faut regarder aussi ce que nous, on ne fait pas.
Ouais.
Et voilà, donc on a décidé d'être vraiment acteurs dans notre quotidien, avec les enfants, les mobiliser aussi pour qu'eux soient acteurs, parce que c'est quand même l'avenir. Et voilà, donc on s'est lancé dans cette aventure.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place au début dans cette nouvelle vie zéro déchet ?
Alors nous, on a décidé de vivre ça plutôt comme un jeu.
Ouais.
On a commencé par écrire un blog avec des articles. On a raconté un petit peu toute notre aventure, que ce soit positif ou négatif. Et voilà, après, on ne s'est pas mis non plus la pression. Au début, on se disait, on va faire zéro déchet. Et puis, au bout de quelques semaines, on s'est rendu compte que zéro déchet, ce n'était pas possible. Et qu'il fallait donc être plutôt presque zéro déchet et tendre vers le mieux.
Oui.
Donc voilà, comme c'était un peu à la rigolade et de manière positive, Bah, finalement, il n'y a rien qui a été vraiment très compliqué. C'est une progression qui est assez lente. Mmh. Et une fois qu'on a pris des petites habitudes, ben,
ça continue. Pour faire connaître le mode de vie zéro déchet, vous avez créé un site et publié le livre Zéro déchet, donc le titre. Vous y donnez des astuces. Par quoi conseillez-vous de commencer pour ce mode de zéro déchet?
Voilà, on a écrit un guide, donc, parce que vu qu'on a essuyé les plâtres il y a 4 ans, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup des zéro déchets, on s'est dit que toutes les galères qu'on a rencontrées, ben, autant que les gens les zappent et arrivent directement au côté pratique et facile. Et donc, dans ce guide, on a mis vraiment toutes les premières étapes qui vont être trouver ses producteurs locaux, parce que ça passe aussi par là.
Ouais.
Réduire ses déchets, c'est aussi un petit peu déserter les supermarchés. Redonner son argent à l'économie locale.
Alors, donnez-moi des exemples concrets, justement, pour ça.
Je vous donne des exemples concrets. Aller chez son boucher, chez son fromager, chez son pâtissier, aller au marché, acheter ses légumes. Parce que du coup, on n'a plus besoin d'avoir des poches en plastique. On peut y aller avec son panier, simplement, avec des bocaux en verre ou des tupperwares.
Ça coûte plus cher, tout ça, ou pas?
Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Ça coûte même moins cher. Au final, la première année, on a réduit notre consommation de 20%.
Ouais, c'est énorme.
Oui, c'est énorme. Parce qu'en fait, faire du zéro déchet, c'est aussi aller à l'essentiel et arrêter de consommer pour consommer. Mm-hmm. Donc déjà, si on déserte les supermarchés, on déserte aussi toutes les tentations. Et donc, on finit par acheter ce dont on a besoin, plus que ce qui nous fait envie, parce qu'on est moins tenté.
Pour finir, par quoi nous conseillez-vous de commencer pour entamer ce zéro déchet?
Alors moi, je vous conseille, bah, comme je disais tout à l'heure, de trouver vos producteurs locaux et d'aller directement chez le commerçant avec vos emballages réutilisables, donc tupperware, sac à vrac. Et après, d'essayer aussi de réduire ses petites pulsions, en tout cas ses envies d'achat, par exemple sur les vêtements.
Oui.
Essayer de privilégier l'occasion plutôt que d'acheter neuf quand on peut.
En tout cas, aller directement chez les petits producteurs, petits commerçants et réutiliser les emballages. Voilà la première étape majeure. Merci beaucoup, Bénédicte, pour votre témoignage au 39-21. Dans quelques instants, nous serons avec Laura. Elle est allée pour la première fois à la marche pour le climat cette année, la marche pour la conscience écologique. Et elle l'a acquis grâce à son fils de 26 ans.
Europe 1. Est-ce que c'est facile pour vous de trier vos déchets, de faire attention tous les jours? Vous témoignez et vous nous dites quelles sont vos habitudes au 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Pas forcément engagé pour la cause environnementale, pas forcément militant, vous faites attention, voilà tout, et vous nous dites comment. Vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous attend au 39-21.
Oui, parce qu'on est toujours tous à se dire, voilà, à se donner bonne conscience en disant on fait nos petits trucs et tout ça, mais on s'aperçoit qu'on n'est jamais totalement à fond. Hein. On
non.
en parlera. D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. vous le faites un petit
peu? Oui, alors je trie.
Oui.
C'est déjà un petit peu.
Ouais.
Je trie les ordures et les déchets, les emballages plastiques. Et j'ai découvert il y a peu de temps que les emballages plastiques souples, comme ce qu'on utilise pour le pain de mie, ça ne se recycle pas et je trouve ça bien dommage. Donc il faut faire attention quand on achète ce genre de produits.
Bah écoutez, vous voyez, c'est une info.
Il faut
aujourd'hui
regarder le petit logo à chaque fois derrière.
On a eu Bénédicte donc, qui, au 39-21, nous expliquait les premières choses à pouvoir exécuter pour être à un niveau zéro, pour protéger son environnement et aller directement chez les petits commerçants et utiliser les mêmes emballages. Nous allons maintenant en discuter avec Laura. Bonjour Laura, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laura?
Donc j'ai 50 ans, j'habite à Cannes.
À Cannes. Il fait beau aujourd'hui à Cannes?
Oui, ça va, il fait beau.
Bon, très bien. Votre prise de conscience écologique, Laura, à vous, elle s'est faite il y a 3 ans environ. De quelle façon exactement?
Alors, elle s'est faite parce que déjà, j'ai vu le film Demain de Cyril
Mélanie Laurent, ouais.
Qui est sorti en 2015. Mm-hmm. Et donc, ça fait à peu près, effectivement, un peu plus de 3 ans. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à prendre conscience que la Terre était en souffrance et qu'il était important, par nos petits gestes quotidiens, de mettre une pierre à l'édifice et de faire très attention à notre méthode de consommer et d'utiliser certains produits comme les plastiques, etc. etc.
Mmh. Alors, c'est votre fils hein, de 26 ans qui vous a sensibilisé aux enjeux liés à notre planète. Et puis, le film Demain, dont vous venez de nous parler. Par quoi vous avez commencé pour faire justement des petits gestes au quotidien pour préserver cet environnement ?
Alors, j'ai commencé à trier, mais très sérieusement.
Oui.
J'ai fait attention à la consommation de tout ce qui est plastique. Par exemple, ne plus utiliser des petites bouteilles d'eau, comme me disait mon fils, et acheter une petite gourde et l'emmener un petit peu partout avec soi et ne pas acheter une bouteille plastique et la jeter ou la mettre au tri. Changer mon habitude alimentaire, essayer de consommer aussi des produits locaux. On a un petit peu, surtout mon fils, adopté le covoiturage, entre autres BlaBlaCar pour les départs. Mmh. Et puis, nous avons mis en place aussi l'alimentation. Voilà, des choses sur l'alimentation, consommer moins de viande, etc., etc.
Et il y a quelques semaines, vous êtes allé marcher pour le climat. Pourquoi avoir décidé de rejoindre cette marche ?
Ben, disons que c'est il faut des messagers, même si on était très peu, parce que j'étais sur Fréjus et c'était l'époque des gilets jaunes. Donc les gens ne sont pas avaient du mal avec les déplacements. Mais quelque part, il faut des messagers, il faut se faire entendre, il faut se faire voir. Et il est important de réveiller les consciences. Et cette marche était importante puisqu'elle était nationale, voire internationale. Et c'était une manière de montrer qu'il y a des gens qui l'ont entendu, qui sont concernés, qui s'en rendent compte. Et ne serait-ce que les passants, quand ils voient passer cette marche, ça les interpelle et y a des slogans qui sont exprimés, il y a des petits panneaux. Donc je pense que ça les invite peut-être à une réflexion sur notre terre qui est effectivement en souffrance.
Et dans ce type de réunion et dans ces marches, on voit aussi, et moi c'est ce qui m'a beaucoup marqué, les générations qui se rencontrent et qui échangent, puisque nous évoquions tous les jeunes que nous avons aujourd'hui autour de cette table. Ce monde de demain les concerne bien évidemment, mais comme vous le disiez, c'est par votre fils aussi de 26 ans que vous avez été sensibilisé, Laura. Merci pour votre appel et votre témoignage. Dans quelques instants, nous accueillerons Pierre Chevel. Il est conférencier youtubeur et auteur de la collection « Changer le monde en 2 heures ».
Europe 1. Des petits gestes, des petites actions chaque jour, c'est votre participation à la protection de notre planète. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de préserver l'environnement ? On vous écoute au 39-21, vous nous écrivez, car nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Recyclage du papier, recyclage du verre, vous récupérez l'eau, l'anti-gaspillage est votre mot d'ordre pour prendre soin de la planète. Quelles sont vos habitudes ? Vous témoignez au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Pierre Chevel, conférencier, youtubeur et auteur de la collection de livres « Changer le monde en 2 heures ». Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci à vous.
Bonjour. J'aimerais d'abord aborder avec vous cette affaire du siècle. Pouvez-vous nous dire ce que c'est exactement ?
Oui, il y a quelques jours, mardi, il y a 4 ONG, Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui ont déposé un recours en manquement contre l'État. En gros, ils ont attaqué l'État en justice pour inaction face au changement climatique, pour dire, maintenant ça suffit, l'État a mis en place plein de lois au niveau national, européen, international, qui violent, où il est censé protéger à la fois les citoyens et l'environnement. Et donc là, c'est pour dire, stop, on attaque l'État en justice. Et ça fait partie d'un mouvement mondial où il y a 1200 procès en cours pour de la justice climatique. Et ce qui est historique, c'est qu'en quelques jours, il y a déjà 1 million de citoyens qui ont signé une pétition en soutien de cette action en justice.
Mmh. Et ce qui n'est pas donc qu'une impression, que de plus en plus de personnes commencent à prendre conscience de l'enjeu climatique. Est-ce que c'est votre sentiment aussi ?
Oui, ben c'est clair. Tout comme le réchauffement climatique est un phénomène qui n'est pas linéaire, il y a des effets de palier. Là, on sent vraiment que depuis 6 mois, et notamment la démission de Nicolas Hulot, il y a une prise de conscience plus grande. Il y a les scientifiques qui poussent encore plus la sonnette d'alarme. Et on le voit sur plein de marches ou d'actions collectives ou dans le discours qu'on vient entendre, des personnes qui, pour la première fois, commencent à se poser ces questions, parce que enfin là on parle plus juste d'écologie, on parle de protéger la vie sur Terre, et du coup ça concerne tout le monde.
Mm-hmm. Et ça concerne aussi beaucoup de jeunes. On a Noémie qui est avec nous, hein, qui est en stage pendant une semaine à Europe 1. Noémie, vous me disiez que vous faisiez partie du conseil municipal des enfants, puis ados ensuite, et qu'on vous amenait à avoir des actions pour protéger cet environnement.
Oui, c'est ça.
Alors comment, par exemple? Un petit exemple.
Par exemple, avec un compost dans la ville. Enfin, c'est des projets comme ça pour conserver notre environnement.
Ouais. Et faire prendre conscience donc que il faut tous faire un effort.
Le recyclage, quoi.
Le recyclage, c'est très important. Je reviens avec vous, Pierre Chevel. Vous avez écrit ces ouvrages « Changer le monde en 2 heures ». Par quoi peut-on commencer pour préserver son niveau et l'environnement? À son niveau, l'environnement, pardon.
Oui, il y a énormément de choses. Moi, première chose que j'ai envie de dire, c'est commencer par ce qui est à votre portée, par ce qui vous attire. Il n'y a pas forcément une bonne et une mauvaise réponse.
Oui.
Moi, personnellement, je suis rentré directement par la case professionnelle parce que c'était une quête de sens professionnel. Mais ça peut être parce que le minimalisme, moi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup sur ma chaîne. C'est quelque chose qui vous parle énormément. Ça peut être, comme on l'a entendu, par une démarche zéro déchet. Ça peut être en allant participer à une marche. Ça peut être en signant effectivement cette pétition sur l'affaire-du-siècle.net. Il y a juste tellement de choses qui existent. Moi, je sais que du coup, je passe mon temps à en partager plein. Donc,
donc
c'est sûr qu'il y a mille et une portes d'entrée. L'important, c'est de se mettre en mouvement et aussi, du coup, de se connecter à des sources d'information pour s'éduquer sur ces sujets, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de moyens d'agir, mais qui sont souvent pas forcément connus. Et donc, pour ça, par exemple, sur YouTube, avec ma chaîne Changer le monde en 2 heures, mais il y en a plein d'autres qui sont géniales. Il y a vraiment plein de médias aussi généraux qui traitent de ces sujets-là, auxquels ça a beaucoup de valeur de se connecter.
Et que répondre aux personnes qui disent, par exemple, que le climat n'est pas une priorité dans un pays en crise économique et sociale, comme on l'a vu ces dernières semaines avec le mouvement des Gilets jaunes, où il a été largement question justement de tout ça?
Oui, c'est vrai que parfois on entend effectivement plein de critiques qui opposent justice sociale et la justice climatique.
Mais, oui.
Mais par exemple, effectivement, là on parlait de la pétition contre l'État sur l'affaire du siècle. Par exemple, l'État, dans sa loi de transition énergétique de 2015, s'était engagé à rénover 500 000 logements par an, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, non seulement, évidemment, c'est une mesure écologique, mais ça serait aussi une mesure de solidarité qui réduirait la facture de nombreux ménages. Donc, il y a une ligne de crête qui n'est pas toujours facile à trouver, mais qui existe clairement pour faire en sorte qu'on fasse une transition écologique et qui soit à la fois juste pour tout le monde.
Mmh.
Ça, c'est clair, parce que ça va coûter extrêmement cher. Enfin, ne rien faire coûtera extrêmement cher. Et à la fois à l'État et à la fois aux citoyens.
Alors, et puis on sait que ce préservement commence par des petits gestes. Que répondre à ceux qui considèrent que ce n'est pas parce que Madame Tout-le-Monde trie ses déchets qu'on sauvera la planète?
Alors, de toute façon, en soi, ils ont raison. Mais ce n'est pas parce que c'est insuffisant que c'est inutile. Il y a vraiment cette nuance qui est indispensable. Je pense qu'on sous-estime aussi à quel point on peut inspirer les gens autour de nous, à quel point aussi ça rend heureux, à quel point on peut créer des réactions en chaîne positives, comme l'auditrice d'avant qui a été inspirée elle-même par son fils.
Ouais.
Et ensuite, moi personnellement, je sais que je suis rentré par cette porte-là des micro-engagements, des actions individuelles. Et c'est parce que j'ai commencé à me mettre en mouvement qu'au bout d'un moment, je me sentais un peu plus légitime et que je me suis dit, ah oui, en fait, je pensais que des actions collectives, c'était plus pour des gens vraiment militants dans lesquels je ne me reconnaissais pas trop. Et en fait, petit à petit, je vais de plus en plus vers ces actions-là. Donc, je pense que c'est très dangereux d'opposer les deux et qu'au contraire, on a besoin de tout le monde et que tout le monde agisse à son échelle. Et donc, c'est génial qu'il y ait des gens qui rentrent par la porte plutôt action collective, d'autres plutôt par la porte action individuelle.
Très bien. Excusez-moi, je pensais que vous n'aviez pas fini. Vous restez en ligne avec nous, Pierre Chevel. Je rappelle que vous êtes conférencier, youtubeur et auteur de la collection de livres « Changer le monde en 2 heures ». Dans quelques instants, nous allons accueillir Fanny. Depuis toute petite, elle a une vraie fibre écolo et elle essaye d'éveiller les consciences autour d'elle.
Europe. Europe 1.
Quelles sont vos habitudes pour prendre soin de la planète? Est-ce que vous triez? Est-ce que vous choisissez votre vélo quand vous pouvez? Vous nous écoutez au 39-21. Vous faites très attention à la façon dont vous triez vos ordures au quotidien, votre consommation d'eau, vous achetez moins de plastique. Pas forcément militant pour la préservation de l'environnement, mais vous faites attention. Olivier Delacroix vous attend au 39-21.
D'ailleurs, à J-3 de ce réveillon, soyons attentifs à tous ces emballages, parce que j'ai souvenir à chaque lendemain de ces réveillons,
les poubelles
débordantes de plastique et d'emballages. Donc dès maintenant, pensez à acheter avec des emballages que vous pourrez en tout cas bien faire recycler. Nous sommes en ligne maintenant avec Fanny. Bonjour Fanny, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Vous nous appelez d'où Fanny et vous avez quel âge?
Alors, je suis dans les Landes, à Seignos actuellement, et j'ai 28 ans.
Quelle chance d'être à Seignos, quelle belle région de Seignos. Vous êtes depuis petite très sensibilisée à tout ce qui est environnement. Oui, vous avez voulu devenir végétarienne, toute petite déjà. Et comment et pourquoi ça vous est venu, ça?
Alors, depuis petite, en fait, j'ai jamais vraiment fait la différence entre les animaux et nous, et j'ai été sensibilisée parce que j'ai vécu proche de fermes, donc d'élevage, etc. Et j'ai été, c'est vrai, pas mal confrontée à des situations, que je comprenais pas forcément déjà en étant petite, d'animaux qui partaient à l'abattoir, d'animaux qu'on achevait, et c'est vrai que c'est venu doucement comme ça. Et au moment où j'ai eu le choix de prendre parti au niveau de l'alimentation, je suis devenue végétarienne.
Alors, on sait que vous habitez Seignos, comme vous l'avez dit, et pour bien connaître cette région, tous ses habitants face à la mer sont des voyageurs. Et vous êtes une voyageuse, vous êtes devenue voyageuse très jeune, et on a l'impression que vous avez été de plus en plus conscientisée sur les enjeux climatiques. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? C'est en allant à l'étranger que vous avez de plus en plus pris conscience de tout cela?
Oui, j'ai été sensibilisée. J'ai une famille qui est aussi proche pas mal de la nature, un grand-père montagnard, une maman qui a aussi toujours voyagé et qui a été très sensible à ça. Donc, et après, c'est venu, moi, par mes choix. Je suis partie en Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, j'ai eu d'autres prises de conscience, notamment par rapport à tout ce qui est faune océanique et à tout ce qui est rivage, en voyageant en Indonésie également, en voyant toute la pollution. Et en revenant ici, en constatant qu'effectivement, la pollution n'était pas qu'à l'étranger et que c'était aussi nos rivages qui étaient très touchés. Et donc du coup, j'ai pris conscience que c'était à tout le monde d'agir.
Et que c'était important de sensibiliser au maximum, mais vous dites sans y aller trop fort. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Parce que je pense que beaucoup, on est tous plus ou moins conscients de l'ampleur que ça prend et de l'ampleur que ça a, toute cette pollution et toutes ces problématiques environnementales. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous prêts à agir et à avancer de la même façon et au même rythme pour changer les choses. Moi, je suis consciente qu'en ne mangeant que végétal, j'ai déjà réduit pas mal tout ce qui était emballage plastique par défaut. Mais voilà, il y a aussi des efforts à faire par rapport à tout ça, être conscient de la façon dont sont recyclés les déchets, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ensevelissement, que tout n'est pas recyclable, qu'il y a des emballages qu'on peut diminuer et éviter d'acheter juste parce qu'en fait, ça reste, clairement, ça ne disparaît jamais.
Oui.
Mais c'est vrai que la prise de conscience, elle est à chacun sa prise de conscience, à chacun la façon d'avancer. Le tout, c'est que tout le monde soit informé également, que personne n'ait peur des réalités. La réalité est la même pour tout le monde. On est tous responsables et on peut tous faire quelque chose, ne pas se culpabiliser, essayer à son rythme de faire quelque chose, sans faire un déni, sans se mettre la pression, mais petit à petit essayer de faire changer les choses à son niveau.
Et être sensible progressivement à cet environnement. Merci beaucoup Fanny pour votre appel et votre témoignage au 39-21. Nous serons dans quelques instants avec Lucille. Grâce à une application, elle fait aujourd'hui du covoiturage, domicile-travail, un autre moyen de préserver notre environnement.
Et il y a Anthony, 37 ans, qui témoigne au 39-21. Cela fait très longtemps que je pêche en rivière. À chaque pêche, je veille à sortir de l'eau tous les sacs plastiques que je trouve. C'est au minimum un sac rempli de déchets à chaque fois. J'ai même trouvé, nous dit Anthony, des béquilles et un vélo.
Ouais.
Europe 1.
Incroyable.
Faut y aller quand même. Hein.
Quand même. Quels sont les gestes que vous effectuez au quotidien pour préserver la planète, comme Anthony, lorsque vous vous baladez dans la nature, vous nous racontez vos habitudes et vos gestes 39-21.
Et j'ai envie de vous dire que si chacun d'entre nous fait ce qu'Anthony vient de dire, moi à chaque fois que je me baigne, et bien à chaque fois que je vois un sac plastique ou une bouteille, et bien je la ramasse et puis je vais l'acheter dans la poubelle. Si on commence aussi par des petits gestes comme ça, et bien c'est pas mal déjà.
C'est comme pour les mégots de cigarettes également.
Exactement.
Pour préserver la planète, quels sont, selon vous, les bons gestes à adopter? Est-ce que c'est facile au quotidien? Olivier Delacroix vous écoute et vous composez le 39-21.
Et nous accueillons désormais au 39-21 Lucille. Bonjour Lucille, soyez la bienvenue au 39-21. Vous êtes en voiture, me semble-t-il.
Oui, c'est tout à fait ça, oui.
Vous partez pour Noël, pour rejoindre la famille?
Oui, je vais chez mon père à Toulouse.
D'accord. Bon, ça roule bien, ça va? Tout va bien?
Ouais, on va dire que ça va, mais bon, vu le temps, c'est horrible, voilà.
Bon, alors attention, soyez attentive. Lucille.
C'est pas moi qui conduis, là. J'ai donné le volant.
C'est parfait, alors. vous êtes à environ 7 km de votre lieu de travail, généralement. Au départ, vous y alliez en transport, puis un jour, on vous a prêté une voiture de fonction et vous avez pris goût à cette voiture de fonction que vous vous êtes mis à utiliser quotidiennement, c'est cela?
Tout à fait.
Est-ce que vous aviez l'impression, sur la route, que beaucoup de monde était seul dans sa voiture, comme vous, quand vous vous êtes mis à utiliser cette voiture?
Ah oui, c'est ce que je remarquais à chaque fois, c'est qu'effectivement, une personne ou deux maximum.
Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris conscience que pour préserver l'environnement, il serait peut-être bon de faire du covoiturage?
Je me disais oui, ce serait bien quand même que je puisse faire du covoiturage. Après, je ne connaissais pas l'application Klaxit encore.
Ouais.
Donc c'est vrai, j'étais un peu démunie parce que bon, je connaissais pas trop mes collègues qui habitaient à côté de chez moi. Donc je me disais ouais, ce serait bien quand même de faire un peu de covoiturage parce que là, je me sens vraiment confortable, mais quand même, je sais que je préserve pas l'environnement en faisant ça.
Est-ce que vous avez pris conscience de cela, que vous étiez toute seule dans votre voiture comme cela, ou en regardant par exemple un film comme, je pense au film Demain, dont Laura parlait dans la deuxième partie de cette émission, où moi-même, je me suis rendu compte que finalement, pour un être qui pesait 80 kilos, cette aide de 80 kilos empruntait un moyen de locomotion qui pesait pratiquement 1,5 tonne, voire 2 tonnes. Est-ce que c'est par ce biais-là que vous avez pris conscience que ça faisait beaucoup pour une toute petite personne?
Non, pas forcément par ce film-là, mais bon, c'est vrai, voilà, au quotidien, en regardant la télé, on est quand même assez sensibilisé, je trouve.
Ouais.
Voilà, pour effectivement les déchets ménagers, les choses comme ça, mais c'est vrai que la voiture, quand on se rend compte, voilà, c'est surtout en région parisienne, on se rend compte que tout le monde a pratiquement une voiture. Là, quand on est en transport, on se dit ça fait quand même beaucoup, voilà, beaucoup de ferraille
pour une seule personne.
Beaucoup de poids, effectivement. Mmh. Voilà, tout ça.
Et alors, vous avez pris connaissance de cette application que vous me nommiez tout à l'heure, l'application Klaxit. Comment est-ce que vous l'avez connue, cette application, et qu'est-ce que c'est exactement?
Alors en fait, je l'ai connu simultanément en fait par une collègue qui m'en a parlé,
oui,
et par des publicités parce que c'était à l'époque des grosses grèves de trains de transport. Du coup, c'est vrai que Klaxit commençait vraiment bien à monter, et donc je pense que j'ai dû recevoir peut-être un email de publicité ou je sais plus trop, mais en même temps voilà que ma collègue m'en a parlé, elle m'a dit si tu veux, moi j'habite à côté de chez toi, j'utilise le Klaxit. Mmh. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc là? Et en fait, elle me dit c'est une application qui permet quand même de donner de l'argent à toi qui me conduis.
Ouais.
Et moi, ça me permet, avec mon pass Navigo, qui est la carte de transport de bénéficier d'un aller-retour par jour. Donc, tout le monde est gagnant. Toi, on te verse quand même parce que c'est toi qui consomme de l'essence au quotidien. Et tout le monde y gagne.
Et du coup, en fait, ça s'est mis à marcher, à bien marcher, tout ça. En fait, vous vous êtes retrouvé à combien dans une voiture?
Alors, maximum, une fois, on s'est retrouvés à 4, des fois à 3, et souvent on est 2, parce que c'est vrai qu'on fait ça avec une autre collègue qui habite à côté de chez moi. Mmh. Après, c'est sûr qu'il y a encore des choses à optimiser, parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui vous proposent, mais selon la route où elle passe, ça ne nous arrange pas forcément. Et le matin, c'est vrai qu'on essaie d'aller au plus vite. Et c'est vrai que faire un détour de 10-15 minutes, des fois, ça peut être embêtant le matin. Donc, on essaye d'essayer de se retrouver à des endroits. Mais généralement, avec cette application, il faut partir au domicile de la personne.
Oui, Pierre Chevel, je me retourne vers vous. Est-ce qu'il y a d'autres applications comme celle-là que vous pourriez nous indiquer et que nos auditeurs pourraient dès demain, enfin en tout cas dès demain, je ne sais pas parce qu'on approche des fêtes, mais en tout cas très vite utiliser?
C'est une bonne question. Très honnêtement, je ne sais pas. Moi, ma première réaction, c'était justement de dire c'est génial qu'il y ait plein de citoyens qui se posent ces questions-là et qui se responsabilisent, et on a besoin de gens qui montrent l'exemple. Maintenant, c'est aussi comment est-ce qu'on aide les citoyens à être plus responsables avec des vraies politiques de transport en commun qui sont vachement en déclin, alors qu'en fait, on aurait d'autant plus besoin d'investir massivement dans des lignes de train, de bus et de transport en commun.
Mmh. Et moi, je trouve qu'à Paris, par exemple, on investit beaucoup dans le vélo. Est-ce que c'est aussi quelque chose, vous avez l'impression que ça passe par là aussi? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une réelle envie d'investir dans ces Vélib un peu partout en France?
Pour Paris, oui. Après, c'est très dur de dire des vérités générales, parce que quelqu'un qui travaille de nuit et qui est à 45 minutes de son lieu de travail,
c'est
plus compliqué de prendre le vélo. Donc, on peut vite tomber dans la culpabilisation. Donc, c'est assez délicat de répondre. En tout cas, c'est sûr que les gens ont plus en plus envie d'agir à leur échelle pour contribuer à protéger le climat, parce que derrière, c'est aussi des enjeux de santé, de bien-être et juste de morale, tout simplement, et de survie de notre espèce quand même, il faut le dire. Par contre, effectivement, c'est à quel prix à chaque fois? Et du coup, tant qu'on peut... plus on peut proposer des choses facilement accessibles, qui soient intéressantes au niveau économique, qui soient pas trop contraignantes, etc., notamment par des initiatives privées avec des appuis, des entreprises, soit par des politiques publiques plus courageuses et plus ambitieuses, bien sûr qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus de monde qui passera à l'action, quoi.
Bon, en tout cas, on a l'impression que les jeunes générations sont de plus en plus conscientes de ces enjeux de la planète, parce que j'en vois de plus en plus sur des vélos, sur des trottinettes, sur des skates électriques, sur ces roues, vous savez. Ça fait plaisir de voir que ces jeunes sont très préoccupés par ces moyens de locomotion qui sont quand même beaucoup plus économiques et qui font moins de mal à la planète. Merci beaucoup Pierre Chevel pour votre intervention au 39-21 aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes conférencier, youtubeur et auteur de la collection de livres « Changer le monde en 2 heures ». Et puis Lucie, bon courage pour le reste de la route qui vous reste à faire pour rejoindre Toulouse. Merci pour votre témoignage aujourd'hui sur Europe 1.
Et il y a Olivia qui témoigne au 39-21. Chaque mégot contient des substances toxiques. Personne n'en parle, c'est tellement simple, on le disait tout à l'heure, de ramasser un mégot. C'est l'exemple basique qui ne coûte rien, mais que tout le monde peut faire. Et puis les fumeurs aussi peuvent mettre leur mégot dans une poubelle.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, je rappelle que nombreux sont les petits commerçants aussi qui vendent des cendriers portables. Et c'est vraiment très agréable donc, à utiliser, donc à penser aussi.
Oui, à la plage et à la montagne également.
Et dans quelques instants, d'ailleurs, nous allons avoir en ligne Mélanie, qui a 34 ans et qui va pouvoir nous sensibiliser à plein de moyens pour préserver notre environnement.
Vous nous dites au 39-21 quels sont vos gestes, vos habitudes pour préserver votre environnement. Vous réagissez aussi via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Sur Europe 1, on voudrait savoir comment vous préservez l'environnement au quotidien. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et comme nous l'indiquait Bénédicte au début de cette émission, dans la première partie, le mode de vie zéro déchet peut exister. Et nous avons Mélanie au 39-21 qui va nous donner ses conseils pour justement utiliser des produits qui préserve notre environnement. Bonjour Mélanie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous ?
J'ai 34 ans.
Et vous nous appelez d'où ?
De l'Oise, de Clermont.
D'accord. Alors vous, Mélanie, vous avez plusieurs trucs pour utiliser des produits 100% nature. Expliquez-moi ça.
C'est ça. En fait, j'ai fait une croix sur tout ce qui est produits ménagers de grande distribution très chimique.
Oui.
Et je me sers pour l'entièreté de la maison des produits à base de, enfin que je crée moi-même, comme la lessive du linge par exemple, avec du savon de Marseille, du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude, que je mets dans une bassine, enfin pas une bassine, mais un tupperware en plastique. Donc comme ça évite de jeter le flacon de lessive qu'on aura acheté tout fait en magasin. C'est beaucoup plus sain pour à inhaler. C'est moins cher en plus.
Oui.
Et pareil pour la lessive du sol, je vais la faire aussi avec pareil du savon noir, du bicarbonate de soude, du vinaigre et de l'eau. Voilà, il y a plein de petites choses à mettre en place au quotidien pour éviter le gaspillage en termes de recyclage plastique qui coûte de l'argent, etc. C'est vraiment faire des petits gestes au quotidien pour sauver la planète, hein, tout simplement. Mmh.
Et comment est-ce que vous avez appris tout ça, en fait? Où est-ce que vous êtes allé tirer l'inspiration? Et puis ensuite, comment vous avez appris à fabriquer tout ça? Vous êtes allé sur Internet? Vous avez cherché?
En fait, ce que je réfléchissais, je sais pas trop comment c'est venu plutôt naturellement, déjà par rapport au coût, par rapport à l'inhalation de tous ces produits chimiques, et oui, après pour tout ce qui est recettes, Internet tout simplement, qui est une bonne source d'inspiration pour créer ses produits soi-même, et après toute la maison, tout ce qui est détartrage, etc., le vinaigre avec du bicarbonate suffit, enfin... après tout ce qui est hygiène corporelle comme des cotons-tiges, j'ai banni ça, je n'achète plus de cotons-tiges, on est passé à la maison avec des auriculis.
C'est-à-dire
des tiges de bambou.
Oui.
Voilà, c'est des tiges de bambou qui raclent. Enfin, qui raclent, c'est un peu grossier comme terme, mais qui enlèvent le sérum de l'oreille au pourtour à l'ouverture.
Oui.
Et du coup, ça nettoie mieux qu'un coton-tige parce que ça ne pousse pas à l'intérieur, ça ne crée pas de bouchons, vous voyez. Et c'est lavable et réutilisable à vie. Donc, et ça vient du Japon ou de Chine, je ne sais plus très bien.
D'accord.
Donc, c'est plein de petits gestes comme ça.
D'accord. Vous avez 34 ans, vous avez des enfants déjà ou
oui.
pas
mmh. J'ai une petite de 2 ans et demi, oui.
D'accord. Et vous lui montrez déjà des choses qui vont dans ce sens ou elle est encore un peu petite?
Un peu petite. Après, c'est vrai que par la suite, ce sera clairement l'éducation dans laquelle je voudrais également, entre autres, hein, parce que l'éducation est large, l'inclure et la faire participer et qu'elle prenne conscience que la planète, on n'en a qu'une et qu'il ne faut pas la négliger, quoi, tout simplement. Parce que puis ça passe aussi par l'huile de palme, que j'ai banni de mon alimentation, par manger moins de viande, mais meilleure. Enfin, voilà, c'est plein de choses comme ça qui sont importantes, je pense.
En tout cas, à travers votre témoignage, on voit encore, je le rappelle, combien les jeunes générations, aujourd'hui, sont porteuses de ces idées afin de préserver notre environnement et notre belle planète. Merci, Mélanie, pour votre témoignage. Merci aussi à Bénédicte, à Laura, à Pierre Chevel, à Fanny de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. On sait aujourd'hui que le changement climatique devrait entraîner dans les années à venir près de 250 millions de réfugiés. Le niveau des mers aussi pourrait monter d'un mètre d'ici 2100. Ces chiffres sont alarmants. Il est urgent de prendre conscience des enjeux de notre planète. Chacun à sa mesure peut participer à la préservation de l'environnement à travers des gestes simples et peu contraignants. Nous l'avons vu tout au long de cette émission à travers les témoignages que vous avez pu entendre. Les ouvrages de Pierre Chevel, Changer le monde en 2 heures, sont trouvables partout et sur Internet. Et l'application 90 jours peuvent vous aider à y prendre part. Vous pouvez bien évidemment...
Oui.
Continuez à en discuter.
Ah bah oui, sur les réseaux sociaux, sur le groupe de l'émission via la page Facebook d'Europe 1, sur Twitter, hashtag Europe 1, vous partagez vos astuces, vos conseils pour préserver la planète, on en est très friands. Puis Instagram aussi avec Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Et vous êtes 3500 sur ce groupe de parole. Et je vous incite encore durant ces vacances de Noël à partager avec vos amis pour que nous montions et que nous continuions à discuter. Lundi, nous parlerons ensemble de l'événement de la journée et du soir de Noël, évidemment. Noël peut être un plaisir ou une corvée car tout le monde ne le vit pas de la même façon. Alors si pour vous Noël a toujours été un moment magique, si fêter Noël est une obligation dont vous vous passeriez bien, si Noël est un jour comme un autre, eh bien n'hésitez pas à nous appeler au 3921 pour nous parler de votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier pour l'éditorial cette semaine et à Boris Patinski pour la réalisation. Merci pour votre charmante compagnie ma chère Ambline.
Merci Olivier.
Merci de m'avoir accompagné. Je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini sur Europe 1 qui aujourd'hui invite la nouvelle génération de chanteuses.
Oui. C'est chanteur, madame aussi, il y a tout le monde.
Chanteurs et de chanteuses.
Il y a tout le monde. De The Voice, de Eurovision Kids, tu vois tout le monde.
Kids United aussi.
Et c'est pour ça qu'il y avait des centaines de personnes devant Europe 1 aujourd'hui.
Bien sûr.
Parce qu'au début, j'ai cru que c'était pour moi et pour vous,
Laurence. Mais c'est l'esprit de Noël, là, voilà. C'est pour l'esprit de Noël.
Bon, alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous allez chanter.
Ah, ça va chanter. Il va y avoir de la chanson
avec
de Noël
un beau bonnet.
Avec absolument un beau bonnet des Pères Noël verts.
Une bonne émission, les filles.
Populaire.
Pour le secours populaire.
Absolument.
Une bonne émission et à lundi.
Merci Olivier.
Bon week-end.
Et à tout de suite avec Laurence Boccolini sur Europe.